Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1961, Fouquet ou le soleil offusqué est un essai biographique de Paul Morand consacré à Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Loin d'une biographie universitaire exhaustive, le livre propose un portrait littéraire, rapide et fortement orienté. De l'ascension, puis de la destruction d'un ministre qui incarne à la fois le faste, le mécénat et les ambiguïtés financières de la France du grand siècle. Morand place Fouquet au croisement de deux mondes, celui issu de la fronde, fait de réseaux personnels, de magnificence et de liberté aristocratique, et celui de la monarchie absolue que Louis XIV et Colbert imposent progressivement. La fête de Vaux-le-Vicomte, l'arrestation de 661, le procès et la captivité à Pignerolles structurent cette trajectoire de la lumière vers l'effacement. L'intérêt du livre tient autant à son interprétation du personnage qu'à l'écriture de Morand, dont la concision. Les formules et le sens des contrastes transforment une affaire d'État en drame politique et moral. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Nicolas Fouquet comme figure brillante d'un ordre politique finissant, Morand présente Fouquet comme un homme exceptionnellement doué pour les relations, l'argent, les arts et la mise en scène de sa propre puissance. Cette image ne dissocie jamais le talent du danger et le surintendant doit sa montée à un système de finances royales fragile, à des réseaux de fidélité et à une capacité à avancer des fonds à un État lourdement endetté. Son éclat est donc inséparable d'une confusion entre intérêts publics, crédits privés et prestige personnel. L'auteur voit en lui un survivant de la fronde, période où les grandes familles, les financiers et les clientèles pouvaient encore négocier avec le pouvoir central. Fouquet agit avec la souplesse d'un homme de transition, plus attentif aux personnes, aux alliances et aux apparences qu'aux disciplines impersonnelles de l'administration qui s'annonce. Cette position explique la force du personnage, mais aussi sa vulnérabilité. Pour Morand, Fouquet ne comprend pas assez vite que le règne personnel de Louis XIV modifie les règles du jeu. Sa devise latine, qui exprime l'ambition de monter toujours plus haut, devient rétrospectivement ironique, son ascension le rend trop visible. Le livre examine ainsi une question politique durable, celle du moment où les qualités qui assurent une réussite dans un régime deviennent des fautes lorsque ce régime se transforme. Deuxièmement, le conflit avec Colbert et l'installation de la monarchie administrative, le contraste entre Fouquet et Colbert donne au livre son principal axe d'interprétation. Morand oppose volontiers le ministre fastueux, sociable et prodigue au commis méthodique, prudent et implacable. Cette opposition est stylisée et favorable à Fouquet, mais elle éclaire une mutation réelle du pouvoir. Avec Colbert, l'État monarchique tend à privilégier l'inventaire, le contrôle, la centralisation et la surveillance des agents financiers. Le conflit ne relève donc pas uniquement d'une jalousie personnelle ou d'une rivalité de carrière. Il porte sur la maîtrise du crédit royal, sur la légitimité de l'enrichissement des serviteurs de l'État et sur la capacité du souverain à ne dépendre d'aucun ministre trop puissant. Morand insiste sur la ténacité de Colbert dans l'accumulation d'éléments compromettants et dans l'organisation d'un dispositif destiné à isoler Fouquet. Il le décrit avec une sévérité manifeste, ce qui demande au lecteur de distinguer l'analyse historique de la sympathie de l'auteur. Mais cette partialité même rend sensible l'enjeu du récit. Fouquet incarne un gouvernement fondé sur la personne et le rayonnement, tandis que Colbert annonce une administration plus froide, plus durable et davantage subordonnée au roi. La chute du surintendant devient ainsi l'une des scènes fondatrices du pouvoir absolu. Troisièmement, Vaux-le-Vicomte, le faste comme langage politique et comme erreur de mesure. Dans le livre, Vaux-le-Vicomte ne sert pas simplement de décor à une biographie. Le château, les collections, les jardins et la fête offerte à Louis XIV en août 1661 condensent la logique entière de Fouquet, faire de la richesse une démonstration de goût, de générosité et de capacité à réunir artistes, courtisans et puissants. Morand restitue la force symbolique de cette magnificence, associée notamment au mécénat dont bénéficient des figures comme Molière, La Fontaine, Le Nôtre ou Lebrun. Fouquet apparaît moins comme un accumulateur passif que comme un organisateur de culture capable de convertir le capital financier en prestige intellectuel et artistique. Pourtant, cette réussite est politiquement ambiguë. Dans une monarchie où le jeune Louis XIV entend devenir le centre unique de la représentation du pouvoir, un sujet qui reçoit le roi avec plus d'éclat qu'il ne peut lui-même en afficher prend un risque considérable. La fête n'explique pas à elle seule la disgrâce, déjà préparée par les soupçons financiers et les manœuvres de cour, mais elle rend visible un déséquilibre que le roi ne peut accepter. Morand transforme donc Vaux en symbole de l'aveuglement de Fouquet, il croit honorer le souverain en déployant son génie, alors qu'il rappelle au souverain l'autonomie et la splendeur excessive de son ministre. Quatrièmement, l'aveuglement de Fouquet devant le piège royal et les signaux de sa chute. L'une des énigmes que Morand met au centre de son portrait est la passivité apparente de Fouquet. Informé, entouré de clients et doté de ressources importantes, il ne semble pas prendre la mesure du danger au moment où Louis XIV, Colbert et leurs alliés préparent son élimination. L'auteur insiste sur cette confiance qu'il interprète comme un trait profond du personnage plutôt que comme une simple erreur tactique. Fouquet se fie encore au lien construit sous Mazarin, à son utilité financière, à sa proximité avec le roi et à sa capacité traditionnelle à négocier les crises. Or, la décision royale échappe précisément à ce modèle. L'arrestation à Nantes par D'Artagnan, le 5 septembre 661, manifeste que le souverain veut produire un acte d'autorité net, public et irréversible. Les précautions prises autour de Belle-Île. Les saisies et l'isolement des proches montrent que l'opération vise aussi à empêcher toute résistance fondée sur les réseaux du surintendant. Morand rend cette chute tragique parce qu'il souligne l'écart entre l'habileté ordinaire de Fouquet et son incapacité à croire à sa propre perte. Cette lecture ne l'exonère pas de ses pratiques financières contestables. Elle montre plutôt comment un homme expérimenté peut mal interpréter une situation lorsque ses succès passés deviennent le filtre à travers lequel il juge tous les risques. En dernier lieu, le procès Pignerol de la justice instrumentalisé à la disparition du favori. La seconde partie de la trajectoire de Fouquet conduit du pouvoir ostensible à l'enfermement. Morand s'attarde sur le long procès engagé après l'arrestation, sur les pressions entourant l'instruction et sur le caractère politique de la procédure. Fouquet est poursuivi pour des malversations financières et pour des éléments susceptibles d'alimenter le soupçon de défiance envers l'autorité royale. Le livre ne nie pas les irrégularités de sa gestion, mais il met surtout en évidence le déséquilibre entre l'accusation. L'objectif de confiscation est la volonté préalable d'abattre un adversaire devenu trop puissant. Cette perspective nourrit l'empathie de Morand pour son sujet et sa critique des intimides de Fouquet. La condamnation de 1664, suivie de l'emprisonnement à Pignerol, produit le contraste décisif du titre « L'homme des salons, des bibliothèques, de Vaux et des réseaux est réduit à une captivité prolongée, loin de la cour ». Cette opposition entre le palais et la forteresse donne au récit sa densité dramatique. Elle permet aussi de réfléchir à la justice dans un état absolutiste, une procédure peut conserver ses formes juridiques tout en étant orientée par une décision politique. Morand privilégie la puissance de cette antithèse sur une étude technique du droit ou des finances, ce qui fait du procès un épisode moral autant qu'institutionnel. En conclusion, Fouquet ou le soleil offusqué s'adresse d'abord au lecteur attiré par le grand siècle, Louis XIV. Les rivalités de cour et les biographies où le caractère d'un homme éclaire une transformation politique. Il conviendra particulièrement à ceux qui recherchent un essai bref, dense et littérairement travaillé, plutôt qu'une synthèse académique sur les finances de l'Ancien Régime. Sa principale utilité intellectuelle est de rendre perceptible la logique humaine des institutions, l'ambition, le goût du prestige, la méfiance royale. Les réseaux de dépendance et les calculs administratifs y comptent autant que les mécanismes abstraits de l'État. Le livre aide ainsi à comprendre pourquoi la disgrâce de Fouquet dépasse le cas d'un ministre soupçonné de malversation, elle marque la mise au pas d'une puissance personnelle au profit d'une monarchie qui veut concentrer autour du roi l'argent, le spectacle et la décision. Ce qui distingue Morand de nombreuses biographies historiques est son art du raccourci et du contraste. Il ne cherche pas à neutraliser son regard Fouquet reçoit une sympathie visible, tandis que Colbert, Mazarin et Louis XIV sont souvent décrits sous un angle plus dur. Cette orientation constitue une limite pour qui veut un examen exhaustif et équilibré des responsabilités financières ou judiciaires. Elle devient cependant une qualité de lecture, car elle donne au livre une cohérence forte et une énergie singulière, par sa prose vive. Son attention aux signes du pouvoir et son sens de la chute, Morand transforme une affaire célèbre en méditation incisive sur la gloire, la faveur et la vulnérabilité des grands serviteurs de l'État. Si vous souhaitez soutenir Paul Morand, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.